Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette quatrième partie de ce cours d'introduction à cette nouvelle discipline de l'Evo-Devo. Nous en étions restés la semaine passée à quelques exemples que je vous avais donnés pour illustrer ce dernier type, ce quatrième type, de possibilités de modification de la régulation des gènes par hétérotypie, c'est-à-dire en introduisant un changement de type de régulation. Et pour ces exemples, j'avais utilisé la petite mouche de fruits, Drosophila melanogaster, et j'avais posé deux questions qui sont vraiment extrêmement simples, mais fondamentales. La première était pourquoi, comment ? Alors, toujours cette double question, selon que vous regardez le problème par la lunette évolutive, pourquoi, ou par la lunette développementale, comment ? Pourquoi, comment les insectes n'ont-ils que 6 pattes ? 3 paires de pattes. Et une partie de cette réponse, parce que ce n'est évidemment pas la réponse totale, une partie de cette réponse tient dans le fait qu'un gène particulier qui s'appelle ultrabithorax est exprimé tout le long de l'abdomen chez la mouche pendant son développement et que ce gène produit une protéine qui a la capacité de réprimer la mise en œuvre du programme PAT. Et vous vous souvenez que cette répression, en partie, passe par la répression d'un gène très important pour la fabrication des pattes chez la mouche, qui est le gène distalless. Donc partout où cette protéine UBX est présente, ce gène distalless ne fonctionne pas et par conséquent, le programme PAT est inhibé. Il n'y a donc pas de PAT sur les segments abdominaux. Mais vous vous souvenez également que cette protéine UBX est présente chez d'autres arthropodes qui, eux, ont des pattes abdominales, comme par exemple crevettes, et nous avions donc regardé les séquences protéiques et comparé ces séquences protéiques entre l'UBX, la protéine UBX des diptères, des mouches et la protéine UBX, par exemple, des crevettes, et nous avions remarqué qu'il y avait des changements de structure, notamment la disparition chez les crevettes ou l'apparition chez les diptères, bien sûr, d'une séquence particulière d'un stretch d'acide aminé monotonique, poly-A-A-A-A-A-A. J'avais émis l'hypothèse, j'avais relayé l'hypothèse qui a été émise par des collègues, disant que cette séquence peut-être avait une activité répressive, et donc en enlevant cette séquence, en perdant cette séquence, d'autres arthropodes, les mille pattes, etc., avaient perdu la capacité de réprimer ce programme PAT et par conséquent les pattes poussaient sur les segments abdominaux. Deuxième question, pourquoi, comment les diptères n'ont-ils qu'une paire d'ailes, diptères, deux ailes, qu'une paire d'ailes sur T2, donc sur le segment thoracique central? Et la réponse que j'avais esquissée était que cette paire d'ailes est inhibée sur T3 par cette même protéine UBX qui empêche la production de cette paire d'ailes, et cette paire d'ailes, que l'on n'a jamais vue, mais probablement, est inhibée sur T1 et réprimée sur T1 par un autre gène architecte, un autre gène homéotique, le gène sex-comp-reduced, qui lui également empêche la formation d'appendices dorsaux sur T1. Et à ce moment-là, je vous avais parlé des membres acidés, ces animaux tout à fait extraordinaires qui ont ce casque, cette structure qui sort de T1 dans la partie dorsale et qui, selon les travaux de ces deux collègues, Gompel et Prudhomme, ces casques ont des caractéristiques d'appendices, de vrais appendices dorsaux. Donc, il y aurait des structures analogue en quelque sorte à des structures d'ailes qui sortiraient de T1, de la partie dorsale de T1, chez ces membres acidés. Donc l'hypothèse est que soit ce gène SCR n'est pas présent dans T1 chez les membres acidés, soit il n'arrive pas à faire son travail correctement. Et souvenez-vous, je vous avais montré que non seulement ce gène est présent dans T1 chez les membres acidés, mais que cette protéine est totalement capable de réprimer le programme L lorsque l'on l'introduit chez la mouche. Et donc la réponse, comme souvent en fait, était « c'est plus compliqué que ce que l'on pense en ». Fait. Dans ce cas-là, on a émis une hypothèse qui est peut-être partiellement correcte, mais à laquelle il manque une pièce. Donc en résumé, je vous avais montré cette image qui est extrêmement parlante, où l'on voit qu'il y a 400, à peu près 400 millions d'années, une différence de structure a été introduite dans ce gène UBX, et là encore, il est extrêmement compliqué de savoir à 100% si cela a été un rajout ou si cela a été quelque chose qu'on a enlevé, n'est-ce pas ? Mais il y a eu une modification de la structure dans cette protéine ultra-bithorax, et cette simple modification dans la structure de la protéine a changé la fonction, fait passer d'une fonction de répression à une fonction de non-répression, qui a permis l'émergence des pattes ou qui a restreint l'émergence des pattes à ces trois segments. Ceci nous avait amené à cette image globale, de résumé global de la fonction primaire de ces gènes OX, de ces gènes homéotiques, dont font partie ultra-bithorax et sexcomb reduced, qui est illustré ici avec une sauterelle qui vous montre les deux grands principes qui sous-tendent à la formation de ce plan de corps, c'est-à-dire, premièrement, un principe de segmentation. On produit des structures itérées, on répète la même structure. Deuxièmement, on identifie ces structures différentes par l'expression de combinaisons de gènes homéotiques différents. Et donc la modification de ces domaines d'expression de ces gènes homéotiques conduit à des phénomènes que nous avons qualifiés de tagmose, c'est-à-dire de déplacement de tagma, les tagma étant définis comme des ensembles de segments qui, d'une façon ou d'une autre, ont une certaine cohérence. On pourrait dire, encore que ce n'est pas totalement correct, que notre thorax, par exemple, serait un tagma, puisque toutes les vertèbres thoraciques contiennent une paire de côtes, nous allons le voir tout à l'heure. Vous voyez ici un tagma, un autre tagma, voilà. Donc des phénomènes de tagmose, c'est-à-dire on ne change pas la nature de ces segments ou de ces ensembles de segments, mais on les rallonge, on les déplace, on joue avec, de telle sorte que l'on peut changer les plans du corps. Et je vous avais montré cette illustration pour bien montrer ce déplacement des tagmas, soit sur des millepattes, des écrevisses, des poissons d'argent, donc, qui sont tous évidemment des arthropodes. Et vous voyez, ces couleurs font des correspondances entre ces tagmas. En fait, ces animaux sont extrêmement différents les uns des autres, mais lorsque l'on regarde leur développement, lorsque l'on compare ces tagmas, on s'aperçoit que finalement, ce n'est qu'une redistribution de segments qui ont des caractéristiques très similaires. Donc une modification, un déplacement, des tailles relatives, des tagmas, par des changements de domaine d'expression ou de structure. À ce point-là, c'est mes deux dernières images pour récapituler la fin du cours de la semaine passée. J'avais donc transposé cette idée de tagma dans le monde des vertébrés, en particulier des mammifères, ici la souris, et des oiseaux, le poulet. Vous voyez que lorsque l'on aligne ces structures segmentées, ces points représentent des segments, des vertèbres. Vous voyez par exemple que chez la souris, qui est un mammifère, il y a 7 vertèbres cervicales, puis 13 vertèbres thoraciques, etc. Alors que chez les oiseaux, nous avons 14 vertèbres cervicales, etc. On voit qu'en fait, les transitions morphologiques majeures correspondent toujours à l'expression des mêmes gènes OX, de ces mêmes gènes homéotiques. Suggérant que, par exemple, pour passer d'une structure cervicale à une structure thoracique, il faut le déclenchement de ce gène numéro 6. En quelque sorte, ce gène numéro 6 va indiquer à ce segment, c'est le moment de passer à une structure thoracique, et puis des structures thoraciques vont être produites jusqu'à ce que l'on arrive au gène numéro 10, où là, l'instruction va être donnée, c'est le moment de passer à une structure lombaire, etc. Donc on a le même marquage génétique chez tous les animaux vertébrés, indépendamment de l'endroit où ces transitions se trouvent, ce qui renforce l'hypothèse qu'effectivement, l'expression de ces gènes est causale, cause, induit ces changements de structure. La vérification de cette causalité, bien entendu, nécessite une approche fonctionnelle, c'est-à-dire on ne peut pas se satisfaire d'inférences ou de coïncidences. Donc il faut qu'on puisse modifier l'expression de ces gènes particuliers en faisant une hypothèse sur le résultat et voir si cette hypothèse est vérifiée. Et c'est là où je m'étais arrêté la semaine passée en vous montrant une expérience qui avait été faite en utilisant le gène numéro 11 chez les vertébrés, qui est le gène architecte. Alors, en tout, il y en a 13 par série. Je reviendrai, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus probablement la semaine prochaine. Mais... Donc, vous voyez qu'on arrive vers la fin. C'est un gène qui fabrique une protéine qui va donc spécifier la transition de la région lombaire à la région sacrée, donc la charnière lombo-sacrée, comme on l'appelle en vocabulaire médical. Alors aujourd'hui, nous avons les moyens, c'est un peu délicat, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais les moyens de modifier l'expression de ces gènes. Par exemple, on peut prendre ce gène numéro 11, qui normalement est exprimé à partir de cet endroit-là, de cette transition, de cette charnière, et puis son expression va s'étendre jusqu'à la fin du corps, on peut décider de faire démarrer ce gène un peu plus tard, une modification hétérochronique, souvenez-vous. Dans ce cas-là, ce gène démarrera ici, ou bien simplement de le positionner ici, de le faire démarrer à cet endroit, donc une modification hétérotopique. Dans les deux cas, on a une région maintenant ici où ce gène devrait être exprimé, cette protéine devrait être présente, mais elle ne l'est pas. C'est ce qu'on appelle une perte de fonction. On a enlevé la fonction de ce gène particulier dans cette région. Inversement, on peut maintenant remonter l'expression de ce gène numéro 11, soit en faisant en sorte de l'activer un peu trop tôt, hétérochronie, soit en faisant en sorte de l'activer simplement au bon moment, mais dans une partie trop antérieure, hétérotopie. Et dans ce cas-là, il y a cette région-là, maintenant, qui normalement ne contient pas cette protéine 11, qui maintenant va la contenir. On a donc affaire à un gain de fonction. Dans un cas, on enlève la fonction, dans l'autre cas, on rajoute la fonction. Et je vous montrais cette image, où sur la gauche, vous avez une image typique d'un phénotype de perte de fonction, c'est-à-dire cette région-là, normalement, devrait avoir cette protéine numéro 11, comme c'est le cas ici. Donc on devrait passer à une structure de sacrum, mais on ne le fait pas parce que cette protéine est absente. Donc on a une transformation de type antérieur, c'est-à-dire à ce moment-là, on a un type vertébral ici qui est trop antérieur, donc on appelle ça une transformation antérieure qui correspond à une perte de fonction. Et inversement, sur la partie de droite, vous avez un gain de fonction. Maintenant, vous voyez que le sacrum est remonté, c'est-à-dire dans cette région-là où normalement on n'a pas cette protéine numéro 11. Maintenant, elle va être présente et par conséquent, on va remonter le sacrum. On a affaire à une transformation postérieure, un gain de fonction. Voilà, je m'étais arrêté là la semaine passée et je voulais vous montrer un second et dernier exemple de ces transformations homéotiques. Souvenez-vous de la définition de Bateson au début du siècle passé. Homéo, qui a l'air de, dans ce cas-là, qui ressemble à, on transforme une vertèbre lombaire en vertèbre qui ressemble à une vertèbre sacrée, donc c'est homéotique, n'est-ce pas ? Qui est une série d'expériences très intéressantes qui ont été faites dans le laboratoire de Mario Capecchi par Denine Velik il y a quelques années. Et c'est le même type d'expérience, mais qui cette fois met en œuvre le gène numéro 10, qui est un gène extrêmement important puisqu'il fait la charnière dorso-lombaire. Autrement dit, c'est le gène, la protéine, donne l'instruction de passer des vertèbres de type thoracique aux vertèbres de type lombaire. Et je vous montre cet exemple un peu pour enfoncer le clou et aussi pour, parce que le phénotype, le résultat obtenu est tout à fait spectaculaire. En effet, si maintenant vous regardez l'expression normale de ce gène numéro 10, elle part de cette transition dorso-lombaire, elle s'étend jusqu'à la fin de l'embryon. Si maintenant vous retardez l'expression du gène numéro 10, ou si vous déplacez l'expression numéro 10, vous induisez une perte de fonction, vous déplacez cette charnière dorso-lombaire, et vous voyez le résultat en haut, vous commencez à obtenir des paires de côtes sur essentiellement tous les segments. Ça démontre bien que la fonction principale de ce gène numéro 10 est de donner une instruction ne pas faire de côtes, de la même façon que, un peu, d'une façon analogue à cette protéine UBX qui disait ne pas faire de pattes sur l'abdomen, là, ce gène dit ne pas faire des côtes, ici, je suis là, j'empêche la formation de côtes. Si vous enlevez la fonction de ce gène, vous voyez qu'immédiatement, vous avez des côtes qui se développent. Même sur le sacrum, vous voyez ces structures ici qui, normalement n'apparaissent pas sur le sacrum. C'est évidemment un résultat extrêmement intéressant puisqu'il nous renvoie à d'autres types de vertébrés qui, eux, ont des côtes jusqu'à la fin de leur corps, qui sont évidemment certains squamates, les serpents, n'est-ce pas ? Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de comprendre comment ce gène numéro 10 fonctionne chez les serpents, mais ce sont vraiment des résultats très compliqués. Alors, pour terminer, la manip inverse, pour être vraiment sûr que ce gène numéro 10 a la capacité de supprimer l'émergence des côtes, eh bien, on va simplement le prendre et puis le faire exprimer, cette fois, de façon très rostrale, c'est-à-dire remonter son expression pratiquement jusqu'à la charnière cervico-dorsale, cervico-thoracique. Donc on va remonter l'expression de ce gène. On se dit, dans un cas comme celui-ci, si effectivement la protéine numéro 10 a un effet inhibiteur sur les côtes, on devrait ne plus avoir de côtes. Et voilà ce que ce résultat absolument magnifique est obtenu, où on voit cette colonne vertébrale dont toutes les côtes ont disparu. Donc, de ce type d'expérience, on peut raisonnablement conclure qu'effectivement, cette protéine numéro 10, alors, il y en a plusieurs, hein, je simplifie un peu, mais ces protéines numéro 10 ont la capacité de supprimer la pousse, si l'on veut, des côtes, et par conséquent, ce sont ces protéines qui assurent cette transition, cette charnière entre T13 et L1, la première vertèbre lombaire que l'on va trouver ici. Voilà, donc avec cela, je suis donc passé sur ces quatre types, vous donner des exemples de ces quatre types de modifications dans la régulation de ces gènes, en particulier la régulation de ces gènes, des gènes qui ont une importance particulière dans le développement des embryons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous ces changements différents, toutes ces modifications de régulation nous amènent inéluctablement à discuter trois des concepts qui sont parmi les plus importants dans cette discipline de l'évo-dévo, qui sont le concept de pléiotropie et de multifonctionnalité, le concept de néofonctionnalisation, et puis un concept alors extrêmement intéressant, je dirais, qui est ce concept de contrainte interne, que certains ont même appelé de la sélection interne. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est discuter un peu de cette notion de pléiotropie, de multifonctionnalité, qui est vraiment au cœur de cette discipline de l'évo-dévo, de ce phénomène de néofonctionnalisation qui est, bien entendu, fortement lié à cette idée de pléiotropie et de multifonctionnalité, et puis cette idée de contrainte interne, de sélection interne. Alors, pléiotropie, c'est un terme un peu compliqué. Multifonctionnalité, ce sont en fait presque deux facettes d'un même concept, pas exactement, comme on va le voir, mais disons, ce sont deux définitions qui, je dirais, se ressemblent. Il y a d'une part une définition peut-être un peu plus génétique qui est celle de pléiotropie, qui dit que la mutation d'un gène peut avoir des effets multiples dans différentes structures, dans différents organes, dans différentes cellules, dans différentes structures osseuses, peu importe. C'est en fait la définition d'un syndrome en médecine. Vous savez qu'une maladie syndromique en médecine, on qualifie de syndromique une maladie qui présente des pathologies différentes. Et d'ailleurs, si l'on considère les maladies génétiques, les maladies qui ont une cause génétique, après ce que je vous ai présenté, après ce que je vais vous présenter sur la pléiotropie, je pense qu'on a le droit de se poser la question de savoir s'il existe des maladies qui ne sont pas syndromiques, s'il existe des maladies qui ne toucheraient qu'un seul petit groupe de cellules quelque part. Alors on pourrait penser à des maladies enzymatiques, par exemple, où simplement une enzyme ne fonctionne plus, mais cette enzyme va avoir des conséquences multiples. Et donc je pense que tôt ou tard, nous serons amenés à rediscuter cette idée de maladie syndromique pour savoir si la maladie génétique non syndromique existe. La multifonctionnalité est légèrement différente, je dirais, dans le sens où il s'agit avant tout d'une définition fonctionnelle qui dit que le produit d'un gène peut avoir des fonctions multiples. Donc d'un côté, on a cette notion de pléiotropie par laquelle un gène va fabriquer une protéine. On peut en fabriquer plusieurs, on va le voir, mais disons un gène va fabriquer une protéine. La mutation de ce gène, la destruction de ce gène, va engendrer des problèmes, des pathologies, des phénotypes partout où cette protéine va être utile. Cela peut être à la fois dans le système nerveux, dans le foie, dans un os. Donc on va avoir des effets multiples. On appellera cette mutation une mutation pléiotropique. D'un autre côté, la multifonctionnalité, c'est-à-dire un gène qui, quand on le mute, peut également avoir des effets différents, mais non pas dû au malfonctionnement d'une protéine, mais au fait que ce gène produit différents produits qui, eux, vont avoir des fonctions différentes. Alors, j'aimerais vous illustrer ces deux points pour bien faire cette différence, juste après être rentré un tout petit peu en détail dans l'histoire de ce terme pléiotropie, car elle est intéressante. Si certains d'entre vous sont intéressés dans cette notion, qui est une notion vraiment à la fois ancienne, vous voyez Ludwig Platt et 1910, mais qui est extrêmement actuelle, qui aide beaucoup à comprendre en fait ce qui se passe actuellement en médecine génétique, je vous conseillerais de lire cet article de Frank Stearns, qui est extrêmement complet et qui s'inspire beaucoup d'ailleurs de cet article de Mac Cusick en 1976. Le terme pléiotropie vient de ce scientifique allemand, Ludwig Platé, qui est un étudiant du grand Ernst Haeckel à Iéna. Et dans ces deux publications, les notices biographiques décrivent un étudiant à la fois ambitieux qui se dépêche de renvoyer son mentor dès qu'il est en position de le faire, qui en plus est relativement misogyne et membre du Parti national-socialiste. C'est une sorte de pléiotropie à lui tout seul, en fait, Ludwig Platé. pas quelqu'un de très intéressant sur lequel j'aimerais m'attarder, mais il ne reste pas moins que ce Ludwig Platé écrit « Je qualifie, c'est ma traduction, je qualifie une unité génétique de pléiotropique, pléion plus tropé le changement, donc plus de changement, de pléiotropique, si plusieurs caractéristiques en dépendent. Ces caractéristiques, c'est le point vraiment important, ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble et seront donc corrélées. Autrement dit, on n'a pas affaire à une maladie syndromique dans laquelle un patient souffrant de la même maladie qu'un autre patient, un patient va développer une pathologie dans un endroit et l'autre patient souffrant de la même cause développera une autre pathologie dans un autre endroit. Pas du tout. Le corollaire de cette pléiotropie, c'est que les deux patients souffriront de toutes les pathologies possibles et imaginables liées à cette mutation. Une définition beaucoup plus précise et un travail alors beaucoup plus fouillé est produite en 1938 par un grand scientifique, Hans Grüneberg, qui est un scientifique anglais, comme son nom ne l'indique pas, qui travaille en Allemagne et qui émigrera à Londres en 1933, où d'ailleurs, anecdote intéressante, il va collaborer, il va rencontrer Goldschmidt, qui, comme vous le savez, est l'auteur de cette idée du monstre prometteur, donc qui est Richard Goldschmidt, qui n'est pas vraiment anti-darwinien, mais qui est quelqu'un qui pense en termes de transformation globale, donc qui a quitté ce schéma de transformation extrêmement progressive de type orthodoxe darwinienne, n'est-ce pas, pour dire, eh bien non, peut-être dans le cours de l'évolution, y a-t-il eu des changements massifs, soudains, qui ont conduit peut-être à ce qu'on appelle des hopeful monsters, des monstres prometteurs. Une idée, bien entendu, liée, associée à ce concept de pléiotropie et de multifonctionnalité. On revient toujours sur cette idée. Grüneberg, en 1938, fait une analyse de l'anatomie des rats, de certaines mutations du rat musqué, Mus norvegicus. Et dans cette publication, Grüneberg fait une différence extrêmement intéressante entre, d'une part, ce qu'il appelle une pléiotropie authentique, genuine, et d'autre part, ce qu'il appelle une pléiotropie spurious, je ne sais pas vraiment comment la traduire, peut-être infondée ou fallacieuse. Le premier type de pléiotropie implique la production, c'est ce qu'il écrit lui-même hein, en 1938, implique la production de deux produits par le même locus, alors que la seconde implique un seul produit ayant des utilisations différentes. Donc vous voyez que, en fait, sa première définition de pléiotropie authentique se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui une multifonctionnalité, c'est-à-dire une unité génétique qui produirait des produits différents, alors que sa deuxième définition, infondée, fallacieuse, spurieuse, correspond peut-être plus précisément à ce que l'on appelle aujourd'hui la pléiotropie, c'est-à-dire la production d'un produit qui va avoir des effets multiples. Et dès lors que l'on mute ce produit, on va avoir des problèmes multiples. Alors, bien entendu, cette pléiotropie, les bases génétiques de cette pléiotropie, nous en avons déjà discuté en long et en large, et je vous remonte une fois de plus ce schéma qui montre cet exemple d'un gène que vous voyez ici en noir, et ce gène qui est entouré de tous ces îlots de régulation que nous avons définis comme enhancers, ces séquences de régulation, ces interrupteurs qui peuvent dire « on y va » ou « on n'y va pas ». Et comme exemple sur lequel j'ai passé pas mal de temps, je vous ai parlé de l'épinoche et de ce gène PITX1. Alors si l'on revisite cette histoire de l'épinoche en ayant maintenant en tête ce concept de pléiotropie, eh bien, c'est la dernière fois que je vous montre ces images d'épinoche, eh bien, on s'aperçoit que ce gène PITX1 étant flanqué de quatre éléments de régulation, souvenez-vous, cet élément particulier ici des nageoires, responsable de la fabrication de ces épines, si d'aventure l'on modifie cet enhancer particulier, eh bien, ce gène va continuer à fonctionner dans les fosses olfactives, dans les organes sensoriels, dans le thymus. Donc, la modularité de ces enhancers permet l'évolution de traits spécifiques sans compromettre la viabilité de l'animal. Et je vous ai montré en grand détail qu'en fait, c'est ce qui est arrivé de façon naturelle pour donner cette épinoche-là qui a perdu ses épines, mais qui est parfaitement viable. En eau douce, il n'y a aucun problème. Donc, on n'a pas ici une mutation pléiotropique. Il semble qu'on ait une mutation simple dans laquelle l'épinoche va perdre ses épines. Pourquoi ? Parce que l'on a touché uniquement un élément de régulation. Alors que, inversement, si le même problème était arrivé au niveau du gène, de la partie codante, si dans ce cas précis, c'est la protéine PITX1 qui avait été affectée, cassée par exemple, interrompue, dans ce cas-là, bien entendu, la fonction dans les fosses olfactives, dans les organes sensoriels, dans les nageoires, dans le thymus, aurait été supprimée et ces épinoches seraient mortes. On aurait un effet pléiotropique. N'est-ce pas ? Alors, bien entendu, lorsque l'on voit cette collection de séquences régulatrices qui entourent ces gènes, on ne peut s'empêcher de se poser la question, une fois de plus, pourquoi, comment ? C'est-à-dire, quel est l'avantage évolutif ? Comment se fait-il que cette multifonctionnalité, cette pléiotropie, est observée, je dirais, préférentiellement chez les animaux vertébrés ? Bien entendu, elle existe chez tous les animaux sur lesquels un minimum de génétique a pu être fait. Mais de telles concentrations de séquences enhancer, de tels paysages de régulation, comme ils ont été qualifiés en 2003, n'existent que chez les animaux vertébrés. On a vraiment une inversion de la stratégie dont je vous ai parlé. Plutôt que d'avoir un gène puissant avec quelques petits éléments de régulation, on va avoir un gène relativement inactif, mais qui va l'être grâce à une forêt d'éléments de régulation. Pourquoi ? Quel est l'avantage ? Quelle est la valeur adaptative, évolutive, d'un tel système de régulation ? Et puis, deuxième question, comment ? Comment la nature, comment l'évolution a-t-elle pu construire ces systèmes de régulation ? On retrouve toujours ces deux questions, la question de la valeur adaptative et la question de la construction du mécanisme. Alors, laissez-moi passer un peu de temps sur la question d'abord du pourquoi. Quelle est la valeur adaptative ? Quel est l'avantage sélectif, en d'autres termes, de ces paysages de régulation ? Et pour comprendre la valeur adaptative d'une telle accumulation de régulation, il faut bien entendu revenir aux trois, je dirais, grandes découvertes qui ont lancé ce nouveau champ d'études qui est l'EvoDevo, trois découvertes qu'on a déjà mentionnées relativement brièvement. La première, je la mettrai aux alentours des années 1985, où plusieurs groupes de recherche découvrent que finalement, les gènes sont les mêmes chez tous les animaux. Alors, encore une fois, aujourd'hui, ça paraît totalement trivial. À l'époque, et quand je dis à l'époque, ça ne fait guère qu'un peu plus d'une trentaine d'années, c'est une vraie révolution. À peu près 5 ans plus tard, on s'aperçoit que finalement, non seulement les gènes sont conservés, mais les principes. Et je vous ai parlé, entre autres principes, des voies, ce qu'on appelle les voies de signalisation, par exemple, la façon dont les cellules se parlent, la façon dont les cellules se déplacent, la façon dont les cellules migrent. Tous ces principes sont en fait les mêmes chez pratiquement tous les animaux à symétrie bilatérale. Et puis, cerise sur le gâteau, quelques années plus tard, on commence à avoir plusieurs séquences de génome, alors des séquences partielles, il faudra encore attendre quelques années, début des années 2000, mais on s'aperçoit rapidement que finalement, les génomes sont relativement conservés. Alors bien sûr, N'importe quel généticien débutant peut faire une différence entre un génome humain et un génome de mouche, ne serait-ce pas que par la qualité des éléments transposons, etc., que l'on va trouver à l'intérieur. Mais globalement, au niveau des différents pourcentages qualitatifs, globalement, ces génomes sont tout de même très similaires. Et cela a conduit à ce que j'ai déjà qualifié de changement de paradigme. Autrement dit, comment faire différemment avec les mêmes éléments? Faire du plus ou du moins complexe avec les mêmes bases. Il faut tout de même que vous réalisiez que le nématode Ceanorhabditis elegans, donc ce petit nématode, pas vraiment un ver, ressemble à un ver qui est microscopique, que l'on trouve dans la Terre, ce nématode possède 950 cellules. C'est-à-dire que ce nématode possède moins de cellules que celles que vous avez déjà refaites depuis que vous êtes assis dans ce fauteuil, dans votre intestin, 10 fois moins, 1000 fois moins. C'est un nombre qui n'est même pas un nombre, finalement. Et pourtant, ce nématode a 15 000 gènes. Et ce nématode est capable de comportements relativement élaborés. Il peut chercher de la nourriture, il est sensible à la température. Bon, il a tout de même un peu plus de 360 neurones, ce qui n'est pas si mal. Mais tout de même, lorsque l'on compare cet objet biologique à l'Homo sapiens, et que l'on se dit que l'Homo sapiens a probablement même pas 22 000 gènes, on se dit qu'il y a vraiment un problème, c'est-à-dire on ne peut pas raisonnablement mettre cette différence de complexité sur le nombre d'unités génétiques. Et donc, il doit exister une réponse différente. Et la réponse est simple, finalement, il faut faire plus par gène, une sorte d'heure supplémentaire, il faut donner plus de fonctions par unité génétique. Comment le faire? Il y a de nombreuses façons, en fait, pour complexifier les systèmes génétiques. Il y a, je dirais, trois façons qui, actuellement, prennent le dessus, ou qui sont discutées peut-être plus que les autres. Et pour faire un choix, j'ai choisi de vous parler de ces trois mécanismes qui sont utilisés de façon relativement générale afin de complexifier les systèmes génétiques, afin de pouvoir faire plus avec le même matériel. La première façon, c'est évidemment de complexifier les structures géniques. Et là, on rentre dans le domaine des isoformes, de l'épissage. Et je vais vous en dire un tout petit mot. C'est des notions vraiment de base, mais je vais vous les rappeler pour que ce soit vraiment très clair. La deuxième façon, c'est évidemment la pléiotropie. C'est de rajouter à ces gènes de multiples séquences régulatrices. Et puis la troisième façon, qui est une façon extrêmement intéressante, en fait, un peu plus compliquée, consiste à complexifier non pas des structures de gènes, non pas des régulations de gènes, mais de complexifier les réseaux dans lesquels ces gènes sont impliqués. Et là, on rentre dans un domaine qui est un domaine très actuel, et je vous en dirai juste quelques mots. Alors, laissez-moi peut-être commencer par dire un tout petit mot de ces complexifications des structures géniques, de ces isoformes, de ces épissages. On est là dans ce que Grüneberg appelait la pléiotropie authentique, c'est-à-dire la capacité d'un seul gène à produire des protéines différentes. Vous savez que ça va à l'encontre du grand dogme proposé par Biddle, par Boris Sefroussi aussi d'ailleurs, il y a de très nombreuses années, pour un dogme qui n'a pas duré très longtemps, mais ce dogme qui disait un gène, une protéine. Alors il s'agissait bien sûr d'enzymes chez les bactéries, ce qui, ma foi, est resté relativement correct encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais disons que cette idée qu'un gène ne faisait qu'un produit, ne faisait qu'une protéine, a perduré tout de même pendant de nombreuses années. Alors, comment peut-on faire pour générer différentes protéines à partir d'un seul gène ? Alors, les spécialistes de biologie moléculaire dans l'auditoire m'excuseront si je passe 2 minutes à rappeler vraiment les fondamentaux d'un mécanisme essentiel que l'on appelle l'épissage. Alors, pour comprendre ce mécanisme, il suffit d'aller étape par étape. Vous avez ici une molécule d'ADN, un morceau d'ADN. Cet ADN, pour fabriquer une protéine, va devoir passer par un messager intermédiaire qui est un ARN. Et c'est donc cet ARN que vous voyez ici. Il va donc y avoir une enzyme qui va se poser là, qui va lire cet ADN et qui va produire cette grande molécule simple brin. Donc l'ADN est une hélice double brin. Et l'ARN n'est qu'une une seule copie d'un de ces deux brins. Donc c'est un acide nucléique simple brin. Et vous voyez que cet ARN, qui est un ARN précurseur, va être épicé, c'est-à-dire que certaines parties de cet ARN vont être enlevées. Alors pourquoi ce mécanisme existe ? Là, je ne vais vraiment pas rentrer dans ces détails. Prenons-le comme acquis qu'il existe. Et effectivement, l'immense majorité, pratiquement l'intégralité des ARN eucaryotes sont épicés. Généralement, quand vous tombez sur un gène où vous remarquez qu'il n'y a pas d'épissage, souvent, c'est quelque chose de spécial. Ça peut être un gène qui a été rétrocopié ou qui est en cours de disparition. Enfin, bref, peu importe. Donc, ces deux morceaux-là vont être enlevés par des boucles. Il va y avoir des boucles faites. Cette partie-là va se coller à cette partie, qui va se coller à cette partie, et cela va produire une molécule d'ARN mature, qui sera évidemment plus petite que l'ARN précurseur, et c'est cet ARN mature qui va être lu par des petites machines moléculaires qui vont rajouter des acides aminés les uns après les autres pour faire une protéine que vous avez là. Les parties qui vont rester dans l'ARN final, lorsque l'on les reporte sur l'ADN, on les appellera des exons. Donc, dans ce cas-là, on a un exon, deux exons, trois exons. Et vous voyez que ces trois exons vont former cet ARN mature qui formera cette protéine. Les parties de l'ADN qui sont localisées entre les exons, on les appellera des introns. Alors, peut-être certains d'entre vous ont-ils entendu en médecine aujourd'hui, si vous faites séquencer pour une suspicion de maladie, etc., on ne va pas nécessairement vous proposer un séquençage total, on va vous proposer un séquençage exonique, c'est-à-dire on va se contenter de ne séquencer que ces parties-là, puisque seules ces parties sont traduites en protéines. Donc la chance, le risque que vous allez avoir pour une maladie génétique de tomber dans un exon est évidemment très très supérieure à la chance que vous avez qu'elle tombe dans un intron ou ailleurs dans le génome. Donc, on fait un séquençage exonique qui, évidemment, est beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux que de faire un séquençage total, puisque les exons ne représentent que peut-être 1% de l'ADN total. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est le cas de figure vraiment lambda d'un gène très simple à 3 exons qui va donner une protéine. Mais beaucoup de gènes eucaryotes ont des structures exoniques beaucoup plus compliquées. 8, 10, 12, 15, 20, 30 exons. Des exons tout petits, des exons très grands. Et donc, lorsqu'il s'agit de faire ces boucles pour remettre ensemble ces différents exons, parfois, on va observer des différences. Là, vous avez par exemple un gène qui a 6 exons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ce que vous voyez là, c'est l'ARN mature complet. Donc c'est un ARN qui a épicé tous ses introns et qui donc contient l'intégralité des exons qui sont sur l'ADN. D'accord ? Cet ARN va produire une protéine, ici qui est représentée avec trois globules, cette partie verte qui va être codée par ces exons, cette partie rouge par cet exon, cette partie bleue par cet exon. Mais imaginez que pour une raison X ou Y, l'épissage saute par-dessus cet exon numéro 4, c'est ce qu'on appelle un épissage alternatif. Dans ce cas-là, un autre ARN va être produit, qui est celui-ci, où il n'y aura que l'exon 1, 2, une erreur ici, 3, 5 et 6, et l'exon 4 n'aura pas été inclus dans cet ARN mature. Alors, me dire, so what ? Mais c'est très important, parce que si maintenant vous regardez la protéine qui va être produite à partir de cet ARN, vous voyez que c'est une protéine qui contient évidemment, et qui est identique à celle-ci dans cette partie, qui est identique à celle-ci dans cette partie, mais cette protéine n'aura pas ce domaine en rouge, ici, alors qu'il va se retrouver dans cette protéine. Alors, encore une fois, vous allez me dire, so what ? Oui, mais si ce domaine en rouge a une importance particulière, par exemple, j'ai mis là, admettons que ce domaine en rouge contienne la séquence protéique qui va être nécessaire à reconnaître une cible d'ADN, par exemple pour réguler un gène cible, n'est-ce pas ? Et que cette séquence verte soit une séquence nécessaire pour dire stop. Et cette séquence bleue est une séquence nécessaire pour la liaison à un cofacteur. Donc vous avez maintenant une protéine qui est modulaire, qui a trois fonctions, trois modules. Un module qui va reconnaître l'ADN, un module qui va recruter une autre protéine nécessaire à sa fonction, et quand cette protéine sera recrutée, le troisième module va bloquer le système. D'accord ? Un exemple tout à fait classique qu'on peut retrouver dans plusieurs cas. Cette protéine-là, par contre, ne pourra pas exercer cette fonction. Elle aura effectivement l'activité de répression, elle aura l'activité de liaison au cofacteur, mais elle ne pourra plus lier l'ADN. Vous vous dites, bah, so what ? Cette protéine va rester dans l'espace nucléaire, elle ne fera rien. Oui, mais elle va titrer ce cofacteur. Elle sera toujours capable de lier ce cofacteur, donc de titrer, c'est-à-dire d'appauvrir la cellule en cofacteur. Donc la simple production de cette protéine en même temps que celle-ci peut causer un effet sur la fonction de cette protéine, parce que ce cofacteur sera moins disponible puisqu'il sera utilisé par cette protéine qui, elle, ne pourra pas lier l'ADN. Vous voyez, c'est vraiment une situation complexe. Alors jusqu'à il y a quelques années, je dirais peut-être jusqu'à 10 ans en arrière, on pensait en règle générale que ces phénomènes de dépistage alternatif étaient relativement stochastiques. C'est-à-dire que, mon Dieu, ce sont des processus compliqués et que ben, parfois on fait ça, puis parfois... voilà. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, il y a une part stochastique dans la production de ces différents ARN, mais qu'il y a aussi un niveau de régulation. C'est-à-dire que dans certains tissus, dans certains contextes, avec certaines conditions extérieures, on peut plutôt produire cette forme-là que produire cette forme-là. Et donc on a ici un système à partir duquel on produit du même gène deux fonctions, deux protéines, ce que Grünberg mentionnait comme pléiotropie authentique. Là encore, si cette forme-là est spécifique d'un tissu et cette forme-là est spécifique d'un tissu, si vous introduisez une mutation dans ce gène, vous allez avoir un effet pléiotropique, sauf, évidemment, si cette mutation affecte un exon qui n'est pas présent dans toutes les formes. Donc vous pouvez avoir là des pléiotropies relativement différentes, dans le sens où Si vous mutez un exon qui est présent dans tous les cas de figure, comme par exemple cet exon numéro 1, vous aurez un effet pléiotropique très général. Si vous mutez un exon qui n'est présent que dans certaines formes de la protéine, vous aurez des effets qui seront moins importants. Alors, cette idée d'épissage alternatif est extrêmement intéressante pour la raison suivante, c'est que les exons, généralement, portent des codages fonctionnels qui sont différents. Il existe donc une modularité dans la construction des protéines. Et c'est un point important sur lequel je reviendrai peut-être l'année prochaine, parce que là, je n'ai pas vraiment le temps d'en discuter cette année. Mais c'est un point qui dit qu'en fait, la modularité que l'on trouve au niveau des protéines, les protéines sont extrêmement modulaires. Prenez par exemple une protéine qui agit comme récepteur à la surface d'une cellule. Eh bien, cette protéine, elle va être organisée de façon très stricte. Il y aura un domaine qui sera vers l'extérieur, donc qui sera particulier pour recevoir le signal. Il y a un domaine qui sera entre la membrane, à l'intérieur de la membrane, qui sera un domaine très spécifique qui va rester dans la membrane. Il y a un domaine intérieur qui va transmettre le signal. Eh bien, ces fonctions différentes, généralement, sont codées par des exons différents. Donc, on trouve déjà dans la structure de l'ADN des informations qui touchent à la modularité des protéines. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que lorsque l'on pense au niveau évolutif, on commence à comprendre comment l'évolution a pu reconstituer des gènes différents en prenant des morceaux à gauche et à droite, ce que François Jacob appelait le bricolage de l'évolution. Quand vous avez des structures ADN qui sont modulaires, vous pouvez commencer à reproduire des gènes parce que chaque partie que vous allez prendre est un module. Vous allez par exemple prendre une partie de liaison à l'ADN d'un facteur, vous allez la combiner avec un activateur, une partie activatrice d'un autre facteur, mais tout cela aura du sens parce que ce seront des modules. S'il n'y avait pas ces modules, on ne pourrait pas reconstruire du sens, en fait. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement intéressante. Alors, laissez-moi passer maintenant quelques minutes sur une autre façon de complexifier les systèmes génétiques, qui est celle de ces GRN. Alors, je reviendrai plus longuement sur la pléiotropie. GRN pour Gene Regulatory Network, que j'ai traduit par réseau génique de régulation. Alors, c'est une traduction compliquée. J'ai longtemps hésité entre réseau génique de régulation et réseau de régulation génique ou génétique, mais en fait, je pense que c'est la bonne traduction. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une notion qui a pris de plus en plus d'importance, je dirais, ces 10 dernières années, notamment grâce au travail de très nombreux collègues, mais d'un collègue en particulier, qui s'appelait Eric Davidson, qui est malheureusement décédé en 2015. Eric Davidson, comme vous le voyez ici, travaillait à Caltech. Caltech veut dire California Institute of Technology. C'est une école d'ingénieurs. Et c'est extrêmement important à comprendre parce que lorsque vous voyez cette illustration, vous vous dites, là, je suis dans une école d'ingénieurs. C'est une vue du vivant qui est une vue mécanistique. C'est presque un réseau électronique avec des interrupteurs. La raison pour laquelle j'ai pris un des réseaux les plus compliqués qui existent, c'est précisément pour que vous ne puissiez pas le lire, en fait, simplement pour que vous en ayez une sorte de vue un peu générale. C'est totalement inutile de rentrer dedans. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que, en fait, chacune de ces petites boîtes jaunes, c'est un gène. Vous voyez ici ce gène BRA, pour Brachyuris, un gène qui spécifie la partie postérieure, peu importe. Ce gène va produire une protéine qui va aller réguler d'autres gènes, alors que ce gène lui-même va être régulé par d'autres protéines produites par d'autres gènes, etc. Donc on a une construction d'un réseau d'interactions, on va appeler un GRN. Et le réseau d'interaction que vous voyez ici, au centre, c'est un réseau relativement simple qui conduit à la formation d'un type cellulaire chez l'oursin, l'oursin de mer, qui s'appelle de l'endomésoderme. Alors, c'est un type cellulaire assez précoce dans le développement de l'oursin, peu importe, c'est un type cellulaire, si vous voulez. Et Eric Davidson a beaucoup travaillé sur ce réseau pour essayer de comprendre l'intégralité des interactions qui font avec des entrées et des sorties qui font que finalement ces cellules deviennent de l'endomésoderme. Alors il y a encore une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, la différenciation de cellules en endomésoderme, eh bien, on l'aurait imaginé avec un gène, une grande flèche qui aurait eu une action A et puis cette action A aurait produit de l'endomésoderme. Et aujourd'hui, on a cette vue qui est une vue extrêmement intégrée. Et vous voyez que cette vue est intéressante parce qu'il y a d'autres réseaux à côté qui interagissent. Alors, bien entendu, lorsque l'on regarde cela, tout de suite, on se dit, ben, là, on peut facilement complexifier le système. On peut en fait le complexifier de deux façons principales. On peut soit modifier la composition du réseau. Imaginez que vous rentrez un nouveau gène là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rentrer un nouveau gène ? Ça voudrait dire simplement évoluer une séquence enhancer en amont d'un gène qui n'est pas dans ce réseau, mais cette séquence répondrait à des protéines qui se trouvent dans ce réseau. Et automatiquement, vous rentrez ce gène dans le réseau. Ce gène rentré dans le réseau va par conséquent produire une protéine qui va être utilisée et vous complexifier immédiatement toute la structure du réseau. Puis la deuxième façon, c'est évidemment de modifier les relations entre réseaux, entre ces réseaux. Et là, ça devient alors encore plus compliqué. Vous avez non pas des relations entre une protéine et un gène, mais vous avez des relations entre un réseau de protéines-gènes et un autre réseau de protéines-gènes. Un dernier point que j'aimerais faire sur ces GRN, c'est pour rester dans cette idée d'ingénierie du vivant, de Caltech, d'Eric Davidson. Il publie en 2006, une publication extrêmement intéressante. S'il y a une seule publication que vous aimeriez lire sur ces réseaux de gènes, c'est celle-ci que je vous recommande. Et il dit dedans, donc, le développement des animaux est contrôlé par de très larges réseaux géniques de régulation. Et donc, l'évolution du plan des corps doit, des plans corporels, doit dépendre du changement dans l'architecture de ces réseaux. Encore une fois, un terme que l'on trouve très souvent dans l'ingénierie, hein, l'architecture d'un algorithme ou l'architecture d'un réseau. Nous avons identifié une classe de réseaux, de composants, une classe de composants dans ces réseaux qui, à cause de leur rôle dans le développement et de leur structure particulière, are most impervious to change, ont le plus de résistance au changement. Donc là, il introduit cette idée de kernels, qui, encore une fois, est un terme informatique, me semble-t-il, qui est une partie de ce réseau, ce qu'on appellera un corps composant, qui résiste à la variation. On retombe sur cette idée de boîte à outils, souvenez-vous. Donc vous avez ce réseau qui est extrêmement dynamique, mais il y a à l'intérieur de ces réseaux des sortes de composants corps qui, eux, sont résistants à la variation, qui sont vraiment présents, et le réseau se construit autour de ce qu'il appelle des kernels. Alors évidemment, c'est une notion extrêmement intéressante parce qu'elle nous fait arriver sur cette notion de contrainte interne, c'est-à-dire sur l'idée qu'on peut changer, on peut modifier ce réseau de plusieurs façons, mais il y aura toujours l'essence du réseau qui, elle, ne sera pas modifiable. On est là dans le kernel. Et si l'on veut modifier ce point particulier, alors là, on change vraiment l'intégralité du plan corporel. Et c'est là que l'on rejoint Goldschmidt, Kronberg, avec cette idée d'une modification beaucoup plus globale, d'un passage qui ne serait pas un passage graduel entre une petite modification du réseau qui peut aller jusqu'à, mais de petites modifications permises, mais juste de petites modifications. Pour aller plus loin, il faut carrément changer le corps du réseau, les kernels. Alors, laissez-moi maintenant revenir sur cette notion de pléiotropie, de multifonctionnalité. Et j'aimerais adresser maintenant, essayer de donner quelques éléments de réponse à la deuxième question que je posais tout à l'heure. Nous avons vu la question du pourquoi, quels sont les avantages adaptatifs, quelle est la valeur adaptative de construire ces réseaux de pléiotropie. La réponse, semble-t-il, est assez simple. Parce qu'il faut que les gènes travaillent plus, et par conséquent, tout ce qui conduit à une multifonctionnalité génique peut avoir une valeur adaptative. Maintenant, laissez-moi peut-être vous montrer deux exemples vivants, deux exemples vrais de pléiotropie, avant que je passe à cette question du pourquoi. Le premier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est un exemple d'Eugène Architecte. C'est un exemple assez compliqué, mais qui, à mon avis, est vraiment illustre parfaitement bien le message que j'aimerais vous transmettre ici. Ce que vous voyez ici, c'est un fœtus de souris, à peu près au milieu de la gestation. Et tout ce qui est en bleu correspond à l'activité d'un seul gène. Et la raison pour laquelle vous le voyez en bleu, c'est parce que une séquence d'ADN qui code pour une enzyme a été introduite à l'intérieur de ce gène particulier. Et donc, ce fœtus de souris, croyant produire un gène OX, en fait, produit une enzyme. Évidemment, il ne le sait pas. Cette enzyme peut catalyser, si on lui donne un substrat particulier, peut catalyser une réaction qui fait apparaître une couleur bleue. Et par conséquent, en colorant ce fœtus dans ce bain de substrat, partout où l'enzyme sera présente, c'est-à-dire partout où ce gène est exprimé, eh bien, on va voir du bleu. Donc c'est une façon extraordinaire, en fait, de voir directement où un gène particulier est actif. Alors, vous allez me dire, pas exactement, parce que le bleu est stable. Donc ce qu'on voit, c'est où un gène particulier est actif ou a été actif. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est actif, mais bon. Et ce que vous voyez, en fait, c'est vraiment de la pléiotropie. Regardez, vous avez du bleu dans la mâchoire, dans la face, dans les follicules des moustaches, dans une partie de l'intestin, dans l'extrémité des membres. Vous avez du bleu dans le système nerveux central. Vous voyez ici dans la ceinture, dans le plexus brachial, ici, ça remonte jusqu'au cerveau postérieur, là, le rhombencéphale. Il y a du bleu partout. On peut même voir un peu de bleu ici dans le futur rein, si vous avez de bons yeux. Donc ce gène est actif, c'est un gène extrêmement important, c'est un gène architecte, est actif vraiment dans des domaines multiples. Quand on voit ça, la simple observation de cet embryon nous permet déjà de faire une sorte d'archéologie des régulations. Parce que tous ces domaines n'ont pas le même âge évolutif. Par exemple, si vous regardez le système nerveux, les intestins, ce sont des structures qui existaient au Cambrien. On peut les dater, en tout cas, à moins 500 millions d'années. Par contre, lorsque vous regardez les mains et les pieds, ce sont des structures qui sont apparues un peu avant la sortie de l'eau des tétrapodes, donc à peu près au Dévonien, à moins 375, moins 380 millions d'années. Et par contre, quand on regarde les follicules des moustaches, ici, ils sont des organes sensibles hein, chez les félins, aussi chez la souris, chez les rongeurs. Ce sont des caractéristiques typiques aux mammifères. c'est ce qu'on appelle une synapomorphie des mammifères. Seuls les mammifères ont des poils, et tout ce qui a des poils est un mammifère. N'est-ce pas ? Eh bien, les mammifères vont remonter à peu près à moins 180 millions d'années. Donc, on peut déjà retracer, en quelque sorte, l'historique de l'apparition de ces régulations. On se dit que ce gène devait être actif dans le système nerveux bien avant de devenir actif dans les pattes, bien avant de devenir actif dans les moustaches. Et dès lors, lorsque l'on peut remonter dans l'ADN et aller identifier les séquences enhancer qui sont responsables de ces domaines d'expression, on peut alors essayer de faire une corrélation entre les séquences que l'on trouve et leur âge d'apparition. C'est en quelque sorte de l'archéologie génétique, finalement. C'est passionnant. Et puis un autre type d'enhancer que l'on a déjà discuté, qui est sorti d'un gène très similaire, en fait. Vous voyez ici un gène, encore une fois, un gène architecte, qui a une quantité d'enhancer dans ce paysage de régulation. Et vous voyez que cet enhancer particulier, je vais appeler l'enhancer numéro 3, peut fonctionner dans le bout des mains, dans le bout des pieds, des membres antérieurs, des membres postérieurs, mais également dans les organes génitaux. Dans ce cas-là, on n'est plus dans un système où l'on a introduit une enzyme dans le gène, on est dans un système, souvenez-vous, comme pour PITX1, ici, ce qui se passe, c'est que l'on a sorti l'enhancer, cette séquence de régulation est sortie de son contexte, on lui met derrière un gène de couleur et on produit une souris transgénique. Et donc la couleur ne va apparaître que où l'enhancer fonctionne, non pas cette fois où le gène fonctionne, où l'enhancer seul fonctionne. Et vous voyez que cet enhancer, cette séquence seule, la même séquence, la même petite séquence d'ADN, peut donner comme instruction activer dans les membres, activer dans les mains, activer dans les pieds, mais également activer dans le tubercule génital, donc dans ce qui donnera plus tard les organes génitaux externes. Donc on est là dans un cas de figure de pléiotropie d'un enhancer, c'est-à-dire une seule séquence régulatrice peut fonctionner dans deux contextes différents. Souvenez-vous, on en a déjà discuté lorsque l'on parlait des types d'enhancers. Je vous avais parlé de ce type d'enhancer qu'on appelle, qui fonctionne par ce qu'on appelle le panneau d'affichage, le billboard, c'est-à-dire des enhancers qui contiennent une série de petites séquences et qui peuvent être reconnues par des facteurs différents, dans des contextes différents. Ce sont un peu des séquences d'ADN qui s'affichent comme un panneau d'affichage. Et puis, des facteurs différents vont venir en combinaisons différentes. Donc, dans le bout des doigts, une combinaison de facteurs va déclencher l'activité de cet enhancer. Dans les organes génitaux externes, une combinaison un peu différente de facteurs, puisque ce sont des structures différentes, bien entendu, mais va également déclencher le même enhancer. Donc, on n'est pas dans un cas de figure où on pourrait avoir ici un enhancer doigt et un enhancer tubercule génital, on est dans un cas de figure où on a un enhancer qui fait doigt, tubercule génital. Vous voyez qu'on peut complexifier le système à volonté. On peut même avoir chaque enhancer ayant plusieurs fonctions. Donc c'est vraiment une façon de complexifier le système. Alors maintenant, la question du pourquoi, avantage adaptatif, pléiotropie, augmentation de la charge fonctionnelle par gène. La question du comment. Alors là, c'est une question qui est beaucoup plus complexe parce que la question du pourquoi est une question évolutive qui, donc, par nature, n'a pas de réponse. Ou, inversement, a autant de réponses que vous le souhaitez. Ce sont des hypothèses qui sont extrêmement difficiles à vérifier. La question du comment, c'est une autre paire de manches parce que lorsque vous attaquez le mécanisme, on peut le vérifier. Si on fait une hypothèse, eh bien on doit pouvoir, au sens popérien, on doit pouvoir la vérifier d'une façon positive, d'une façon négative. Alors la question que j'aimerais brièvement traiter avant d'arrêter aujourd'hui, c'est quel mécanisme pouvons-nous imaginer qui puisse conduire au recrutement, à l'évolution de toutes ces séries d'enhancers consécutifs groupés dans les mêmes paysages de régulation? C'est quelque chose d'extrêmement typique lorsqu'on regarde le génome des vertébrés. Et la question, c'est comment? Comment est-il possible de construire ces paysages de régulation? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Il y a une hypothèse, qui est une hypothèse qui me semble relativement plausible, et c'est celle que j'aimerais vous décrire maintenant. Et pour cela, il faut que je revienne très brièvement à ce mécanisme d'action de ces séquences de régulation, qui sont des mécanismes complexes, mais je vais essayer de les simplifier, encore une fois, au maximum. Souvenez-vous, vous avez un morceau d'ADN, vous avez ici en bleu un gène, en jaune, vous avez ce qu'on appelle le promoteur, c'est-à-dire la séquence qui est juste au démarrage du gène, qui dit « on y va, on n'y va pas », qui donne le kick, hein, le point de départ de la transcription. Et puis en rouge ici, vous avez une séquence enhancer, avec deux petites séquences, qui est très similaire à ces séquences que je viens de vous montrer, E1, E2, etc. La façon dont cet enhancer fonctionne, souvenez-vous, c'est en contactant ce promoteur. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible par toute une série de facteurs qui vont médier ce contact, en particulier ces facteurs bleus qu'on appelle médiateurs, qui portent bien son nom, c'est une protéine qui est là pour essayer de gluer le système, de faire en sorte que cet enhancer rencontre ce promoteur. Parce qu'il faut vous imaginer que tout cela se passe dans une mélasse de chromatine, n'est-ce pas ? Une rencontre extrêmement improbable avec un enhancer très éloigné qui est enroulé dans des structures chromatiniennes. Et puis, comment cet enhancer va-t-il trouver son gène cible ? Alors, une grande partie de ce mécanisme repose sur une stochasticité, c'est-à-dire qu'une fois ou l'autre, cet enhancer va rencontrer son promoteur et là, ça va se solidifier, le temps de fonctionner un peu, et puis il va repartir, et puis il reviendra, etc. Donc c'est ce que vous voyez là. Alors cette image, évidemment, elle est un peu trompeuse dans le sens où on a l'impression que tout fonctionne comme une machine d'ingénieur, où on a l'enhancer ici, le promoteur, et puis au moment M, au temps T, et ben, boum, on fait une boucle, et puis on démarre, et puis quand il faut que ça s'arrête, on s'enlève. Mais ce n'est pas comme ça. La réalité est extrêmement différente. La réalité, c'est que l'enhancer ne sait pas où aller, le promoteur ne sait pas que c'est un promoteur, il ne sait pas qu'il y a un enhancer, et donc les choses doivent se mettre ensemble. Alors, lorsque l'on regarde ce schéma, on s'aperçoit d'une chose, en fait, c'est que ces configurations-là sont des configurations négatives, c'est-à-dire le gène ne fonctionne pas, le gène ne fonctionne pas, le gène ne fonctionne pas. Cette configuration-là, une fois qu'elle est produite, est une configuration qui est positive. C'est-à-dire, elle fonctionne, elle produit une fonction, elle produit un ARN qui produit une protéine. Par conséquent, il y a en quelque sorte une valorisation, une valeur adaptative finalement, associée à cette configuration qui n'existe pas dans ces configurations-là. À partir de là, si on transpose, alors évidemment avec un raisonnement télonomique qui ne devrait pas être de court, mais qui aide à comprendre. Si on se dit, comment pourrait-on faire, finalement, pour essayer de favoriser cette configuration-là, de la rendre plus fréquente, plus simple, plus amicale? Eh bien, la nature y est parvenue en mettant au point tout un système de contacts additionnels qui font que peu à peu se construit une architecture ici, qui fait que cette configuration-là est privilégiée. Pourquoi est-elle privilégiée? Parce que quand elle fonctionne, elle produit une valeur adaptative. Donc, on va faire en sorte qu'elle fonctionne le mieux possible. Et pour qu'elle fonctionne le mieux possible, on va peu à peu, sur des milliers, etc., d'années, établir des petits ponts qui font que, au lieu, une fois ayant fonctionné, le système se relâche et reparte, eh bien, le système, une fois ayant fonctionné, il va rester, parce qu'il va y avoir des ponts, et donc le système va être prêt pour la prochaine fois. D'accord ? Une sorte de pré-structure. Ça, évidemment, ça a une très grande valeur adaptative, parce que ça veut dire que le système devient plus réactif, il est plus facile pour l'enhancer de trouver son promoteur, donc il va mieux fonctionner, plus souvent, au bon endroit. Et donc, on va peu à peu construire une architecture qui va renforcer cette configuration. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec l'évolution de ces paysages de régulation ? Bien, c'est évident maintenant, parce que si vous avez une structure qui est déjà prête, dans ce cas-là, évoluer une nouvelle séquence, ici par exemple, va être beaucoup plus facile que s'il fallait l'évoluer ici. Vous comprenez ? Parce que tout est prêt. La boucle est faite, les cofacteurs sont prêts, les bonnes protéines sont pas loin, il suffit juste d'évoluer une séquence qui va utiliser cette structure à son profit. C'est ce qu'on appelle du hijacking. C'est exactement le terme que l'on... Vous savez, en américain, ça veut dire sauter dans une voiture dont le moteur fonctionne au feu rouge, vous sortez le conducteur et vous volez la voiture. C'est du hijacking. Là, en fait, vous prenez avantage de cette structure, du fait qu'elle a été consolidée pour que cet enhancer marche bien, et vous en évoluez un juste à côté. Et quand vous en avez deux, c'est un cercle vertueux. Quand vous en avez deux, vous reconsolidez le système. Le plus vous en avez, le plus vous consolidez le système et le plus vous facilitez l'évolution du troisième. Et c'est pour cette raison, pense-t-on, que ces séquences enhancers sont apparues dans des endroits où véritablement on trouve 5, 6, 10 des forêts, des vraies forêts de séquences enhancers, qui sont restreintes à ces micro-architectures. Alors, il y a tout de même un problème. Et c'est là où j'aimerais introduire le cours de la semaine prochaine. Il y a tout de même un problème sévère. C'est que, imaginez maintenant que vous évoluez un autre enhancer, donc celui-ci. Donc, vous avez maintenant l'enhancer rouge ici, qui fonctionne, et vous avez cet enhancer qui est à proximité, eh bien, cela peut produire des problèmes de lecture, parce que plusieurs facteurs qui interagissent avec ces enhancers sont les mêmes. Il y a des facteurs qu'on appelle génériques, qui sont des facteurs que l'on va retrouver sur tous les enhancers. Donc, on va prendre le risque d'avoir une interférence entre ces enhancers qui fait que, à la fois, vous bénéficiez de l'évolution d'une nouvelle séquence régulatrice, puisque c'est bon pour la multifonctionnalité de votre système, mais d'un autre côté, vous prenez le risque d'affaiblir les régulations qui existent déjà. Je reprends la métaphore d'une forêt. Vous mettez beaucoup d'arbres, vous allez affaiblir la pousse de tous les arbres. Et donc, il y a une balance qui va devoir être trouvée, une sorte de balance des intérêts, ce qu'on appelle un trade-off. Et le problème, c'est comment la nature a pu résoudre ce trade-off pour pousser la balance dans le sens d'une multifonctionnalité, donc dans le sens d'une augmentation à outrance de ce nombre d'enhancers. Et en fait, la réponse à cette question est vraisemblablement une réponse simple, finalement, c'est simplement de dupliquer le locus. De dupliquer le locus, de dupliquer le gène, toute la partie. Pourquoi ? Alors revenons maintenant à cette boucle. Si vous évoluez un nouvel enhancer ici, et que vous avez une interférence, et que vous perdez de l'activité de cet enhancer, peu importe. Peu importe, puisqu'il fonctionne sur l'autre copie. D'accord ? Je dirais même, maintenant que vous avez deux copies, vous pouvez même développer un enhancer ici. Si cet enhancer va interférer avec cet enhancer-là, peu importe, puisque vous allez avoir encore une demi-copie qui fonctionne sur l'autre. Vous voyez où je veux en venir. Donc, en fait, la duplication dans le locus génétique tamponne, absorbe les effets potentiellement négatifs d'une multifonctionnalisation, donc de l'émergence de nouvelles séquences de régulation. Il faut voir le système comme vous avez un gène, vous allez accumuler les enhancers, au bout d'un moment, vous allez être saturé. Ça ne va plus être possible, il va y en avoir trop. Une façon de se sortir de ce conundrum, c'est de dupliquer l'intégralité du système, et là, vous relâchez les pressions. Vous relâchez les pressions, parce que si vous diminuez de 50% l'activité de ce gène à cause de cette interférence, eh bien, de toute façon, vous allez avoir 50% qui vont venir de l'autre copie. Donc, ça va faire du sauvetage. Donc, le système va être tamponné. Et effectivement, cette duplication des locus génétiques a été une des solutions les plus productives à l'émergence de ces régulations parce que la redondance des fonctions permet des innovations de régulation. Et ça, c'est un concept absolument clé dans cette discipline de Levo-Devo. Et j'aimerais terminer aujourd'hui en rendant hommage à la personne qui l'a proposé, Suzumu Ono, qui malheureusement est décédé en 2000. Et Suzumu, dans son livre Evolution by Gene Duplication, donc lui propose carrément qu'une des forces motrices de l'évolution, c'est la duplication des gènes. Ono, il introduit ce troisième terme que je discuterai peut-être plus en détail la semaine prochaine, qui est cette idée de néofonctionnalisation et qui dit simplement que lorsque vous avez un gène qui a une fonction F, si vous dupliquez ce gène, vous allez bien entendu donner une possibilité à ce gène F' d'évoluer quelque part. Et donc une possibilité extraordinaire de produire, de créer, entre guillemets, une nouvelle fonction, une néo-fonctionnalisation. Et Ono, en fait, s'inscrit dans cette longue lignée de scientifiques qui étaient, tout en étant évidemment darwiniens, avaient quand même des doutes sur une orthodoxie classique, gradualiste classique, par laquelle toutes les fonctions, tous les caractères ont évolué de façon extrêmement graduelle sur des temps extrêmement longs. Et Ono résume sa pensée dans ce paragraphe qui est extrêmement intéressant, en fait. Et là encore, ma traduction est peut-être un peu approximative, mais Ono pose la question, alors, il est loin d'être aussi simple que cette phrase reflète, en fait, mais il la pose d'une façon naïve, justement, pour essayer de cristalliser le problème. Il dit, mais si la sélection naturelle seule avait agi, sélection naturelle au sens darwinien, alors il n'existerait que des formes bactériennes, puisqu'on estime qu'à l'origine de nous étaient des bactéries. Donc, si l'on avait sélectionné que ce qui existe, eh bien, il y aurait aujourd'hui que des bactéries. Les grands sauts évolutifs, notamment ceux du Cambrien, n'auraient pas pu se produire car ils auraient nécessité la création, là, j'ai mis des guillemets, de gènes nouveaux qui n'avaient pas de fonction préexistante. Et comment voulez-vous, dans une structure darwinienne classique, comment voulez-vous que la sélection naturelle, qui marche au gré de la sélection, sélectionne quelque chose qui n'a pas de fonction préexistante? Pour pouvoir sélectionner, il faut qu'il y ait quelque chose qui préexiste. Alors évidemment, il y a des réponses à... C'est presque un sophisme, en fait, mais il y a des réponses à cela. Mais Ono pose cette question pour vraiment soulever le problème, pour dire qu'il y a dû avoir des mécanismes additionnels qui, bien entendu, ont été, eux, soumis à la sélection naturelle, mais qui ont fait passer vraiment d'un état à un autre, sans qu'il y ait peut-être toutes ces étapes intermédiaires. Et il propose que la duplication des gènes, la duplication des locus, et comme on le verra la semaine prochaine, la duplication entière des génomes, en est une des causes. Je vous remercie.